vous l'avez bien connu. Vous l'avez bien connu, une émission sans contrainte ni personne, vous l'avez bien connu, proposée par Ambroise Perrin. Épisode numéro 97. Emmanuel Droit, pas vraiment dos au mur. Chers amis, bonjour. Aïe, 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 un prof de fac qui va nous parler des nazis et du mur de Berlin. Va falloir s'accrocher. Mais peut-être avez-vous des étudiants qui vont vous écouter. Bonjour Emmanuel Droit.
Bonjour Ambroise Perrin.
Alors notre émission, vous l'avez bien connue, entame une nouvelle saison. Et après les gens dans l'ascenseur que l'on connaît bien mais que l'on ne reconnaît pas. Et puis après les invités à la radio qui, eux, posent les questions. Et après les spécialistes du temps perdu et les érudits des jeux du hasard, après les belles histoires où tout ce que j'inventais était vrai, voici un face-à-face, toujours sans contrainte. Emmanuel Droit, donc, prof à Strasbourg, spécialiste de la guerre froide, de la RDA et de la mémoire collective après 1945. Emmanuel Droit, alors ?
Alors Emmanuel Droit est un historien du temps présent, qui en effet s'intéresse, alors vous avez parlé de mes champs de recherche, la guerre froide, la RDA, j'y suis arrivé un tout petit peu par hasard en fait sur ces terrains de recherche, et au-delà simplement de ces terrains de recherche, moi ce qui m'intéresse, et c'est ce que j'essaie de transparaître à chaque fois dans les ouvrages que j'ai pu écrire et que je compte encore écrire dans les années à venir, je m'intéresse aux expériences humaines. Aux expériences humaines dans des situations évidemment particulières, la fin de la Seconde Guerre mondiale, la guerre froide, la sortie de guerre dans le cadre de la dénazification. Et plutôt que de partir d'une approche centrée sur les institutions ou sur des politiques publiques, essayer de comprendre ce qu'ont pu alors à la fois ressentir, éprouver des hommes, des femmes qui ont été traversés par des épreuves souvent incommensurables. C'est un petit peu le moteur en fait de ma recherche.
La vie quotidienne dans l'histoire. Mais ma question, quand je disais alors, c'est vous êtes qui? Alors, vous avez un peu plus que... Vous avez une vingtaine d'années?
Alors, moi, j'ai une bonne quarantaine d'années. Je suis un enfant de la fin de la guerre froide, puisque je suis né à la fin des années 70, il y a...
Voilà, donc peut comprendre que vous alliez en Allemagne faire des recherches.
Oui. Alors, je me suis toujours intéressé à l'histoire allemande depuis mon enfance. Mm-hmm. Une passion pour l'histoire, ça, c'est indéniable. Je me souviens encore de l'histoire de France que m'avait offert mon arrière-grand-mère quand j'avais
Michelet.
8 ans. Non, c'était pas Michelet, c'était un ouvrage de chez Larousse. Je me souviens encore de la couverture.
Avec Jeanne d'Arc en couverture.
Non, avec Louis XIV en couverture.
Ah, et c'était le portrait de David.
Ouais, le portrait, le célèbre portrait de Rigaud.
Ah, Rigaud.
De Louis XIV. Et il y avait Louis XIV d'un côté et puis il y avait le TGV de l'autre. Et voilà, il y avait une forme de continuité de l'État et de la France, d'une France toujours à la pointe
TGV,
du progrès de la grandeur.
Hein.
Oui, c'est un peu Mitterrand, mais c'est surtout cette idée qu'il y avait une sorte de continuité de la France, malgré... C'est ça qui m'avait fasciné à la lecture de cet ouvrage. Je me souviens encore des guerres de religion. Et toujours cette idée que la France sortait toujours grandie des crises. Il y avait une forme de continuité de l'histoire. Alors, j'étais trop jeune pour me rendre compte que c'était évidemment une sorte de construction mémorielle à destination des enfants. Mais en tout cas, ça a été très fort.
Alors, pour
chez
ceux
moi.
Qui veulent mieux vous connaître, est-ce que vous aimez la confiture de framboise?
Non, moi j'aime bien la confiture d'abricot.
Ah, d'abricot, oui. Avec un peu le goût amer des noyaux.
Avec la forme, avec l'acidité, l'acidité de la confiture.
Il ne faut pas manger le noyau, je crois que c'est un peu empoisonné au milieu.
Enfin, non, il ne faut pas, oui.
Voilà. Et est-ce que vous connaissez la tarte au fromage de la pâtisserie de la rue Gaillère,
si vous... Oui, je la connais.
Ah ouais, elle est bonne.
Elle est bonne aussi.
C'est un gimmick qu'on fait toujours dans notre émission.
Mais je la connais en plus.
Ah ben voilà, très bien. Alors, je ne vais pas vous demander si vous avez fait votre service militaire et si vous avez déjà tiré au fusil pour défendre la patrie.
Eh ben, c'est intéressant comme question parce que moi, je suis né en 1978. Donc, j'ai fait partie de la génération qui a connu la fin du service militaire en 1995. Et donc, du fait de mes années d'études et de la décision de Lionel Jospin
de supprimer
la conscription, bah, du coup, j'ai pas fait de service militaire. Donc, j'ai jamais tenu un fusil dans mes mains, j'ai pas fait mes classes. Je fais partie de cette génération qui a grandi dans les années 90 avec la fin de la guerre froide, les dividendes de la paix, l'espace Schengen, les échanges Erasmus. Mm-hmm. Je fais partie d'une génération.
Vous avez fait Erasmus?
Fait Erasmus en Allemagne à l'université de Göttingen. Il faut jamais oublier que, je le raconte souvent à mes étudiants, mais que moi j'ai grandi à une époque où la Turquie était aux portes de l'entrée dans l'Union européenne au début des années 2000. J'ai fait partie d'une génération qui a cru qu'on allait avoir une constitution européenne en
la Turquie qui occupe toujours le nord de Chypre.
La Turquie qui occupe le nord de Chypre, qui réorganise à sa manière le Proche-Orient depuis la chute de Bachar el-Assad. Mais voilà, moi j'ai grandi aussi à une époque où j'ai assisté sur le pont de Francfort sur l'Oder en 2004 à l'entrée de la Pologne dans l'Union européenne. Et cet élargissement en fait représentait
formidable
beaucoup.
Formidable enthousiasme. Ouais, tous les pays qui rentraient.
Je me souviens de cet enthousiasme.
Donc vous êtes d'une génération qui n'a pas dit aux chiottes l'armée.
Non, je fais pas partie de cette génération
post 68.
Ouais, c'est ce que je veux dire. Je suis pas chez génération post 68. Mais je fais partie de cette génération qui a bénéficié des dividendes de la paix et de la sortie de la guerre froide.
Alors vous êtes rentré dedans. En tant qu'historien, donc, après vos études, je sais que vous êtes passé par la ville de Rennes.
Oui.
Rennes, unique objet de mon ressentiment. Rennes, non, c'est Rome. Mais, donc, vous avez étudié tout ça, vous intéressez aux individus plus qu'aux grands
aux
mouvements des généraux, des structures. Un soldat, comme ça, vu de mon néophysme, il a peur d'être tué.
Oui.
Mais est-ce qu'un soldat a aussi peur de tuer ?
Oui, c'est un des enjeux que j'ai pu développer dans le livre que j'ai consacré au suicide collectif dans la ville des mines, notamment en me penchant sur les journaux intimes de certains tankistes soviétiques. Quand vous avez 18-19 ans et que la fin de la guerre est imminente, vous avez peur de prendre une balle perdue et généralement vous tuez pour ne pas être tué. Donc c'est pas tant parfois une logique de vengeance ou une logique idéologique. J'aime beaucoup la formule de mon collègue Nicolas Mario qui disait pour la Première Guerre mondiale qu'il ne faut pas être motivé pour tuer. Faut pas être motivé au sens idéologique du terme, mais c'est d'abord une question de survie, et c'est ça l'expérience ordinaire de la guerre que j'essaie de saisir. Et donc j'essaie toujours de trouver des sources les plus proches de cette réalité-là, donc des journaux intimes, des écrits autobiographiques, des traces écrites qui font ressentir ces émotions-là.
Une sorte de Annie Ernaux de la guerre.
Non. Oui, alors pas dans le style d'Annie Ernaux,
mais une écriture.
Je suis très sensible, je lis beaucoup de littérature contemporaine.
De la place.
Oui, et au sujet du réalisme, c'est-à-dire quelle réalité on peut atteindre en histoire, quelle réalité on peut reconstruire à partir des témoignages des acteurs. J'aime beaucoup cette expression de Paul Venn qui définit l'histoire comme un roman vrai. Il y a une spécificité littéraire à notre
discipline. Mais les historiens, ils inventent entre guillemets la réalité après, en concentrant, en remettant les choses en place. Mais
alors ils l'inventent pas, ils essaient de la reconstruire.
Oui. J'utilise inventer parce que c'est Flaubert qui dit ça.
C'est pas totalement faux. C'est-à-dire que c'est une forme d'invention dans la mesure où il faut qu'on invente nos sources. Elles sont pas forcément livrées comme ça, disponibles. il faut aller les chercher, parfois il faut les provoquer en menant des entretiens avec des témoins. Et cette invention, elle renvoie aussi à la dimension subjective de notre discipline, c'est-à-dire qu'on y met beaucoup de nous, en fait.
Oui, on choisit, mais c'est ce que disaient les grands spécialistes historiens des guerres puniques à propos de Salambo de Flaubert, qui n'est pas du tout un historien et tout, mais il a lu 3000 bouquins pour écrire Salambo, et ils disent tous que c'est une somme formidable. Alors, dans notre émission, vous l'avez bien connu, sur Radio Judaïca Strasbourg, nous ne donnons pas des leçons, bien sûr, et ce n'est pas un cours de fac, mais aujourd'hui, je vais quand même vous poser beaucoup de questions, les unes après les autres, et je n'attendrai pas les réponses, car mes questions seront des pistes, non pas pour vous, Emmanuel Droit, l'invité, mais pour l'auditeur. Alors, j'ai en face de moi trois de vos bouquins, vous en avez écrit plusieurs, bon, parfois c'est des ressucés de trucs de fac, hein, c'est, bon, tous les profs font ça, hein, puis ils pressent le citron des étudiants, on leur donne un master 2 sur un sujet, on en met 4 ou 5 ensemble, et ça fait un bouquin. Mais là, vous avez, alors, j'ai vraiment adoré 24 heures de la vie de la RDA, les suicidés de Desmines, on en a déjà parlé, et la dénazification. Je prends donc mes notes sur ce premier. Voilà, alors 24 heures de la vie en RDA. Alors, c'est un bouquin qui date de 2020 avec une photo en couverture qui fait penser au film Goodbye Lénine. Hein, je crois que l'héroïne vient de décéder, hein, je crois. Voilà, et donc, bon, c'est un film jubilatoire et une citation du peintre Cézanne. Hein, et vous dites que la couleur grise, c'est l'ennemi du peintre. Enfin, Cézanne disait ça. Alors, ce n'est pas la couleur grise de Primo Levi ou même de Patrick Modiano, mais c'est ce flou entre le bien et le mal. Et les rescapés n'aiment pas en parler. Hein, bon, je me souviens, Jean Samuel, que nous connaissons bien ici à Strasbourg, survivant d'Auschwitz, et qui racontait que si on piquait pas le pain de l'autre, on survivait pas, et donc c'est cette zone grise, mais ce sont les fameuses 1001 nuances de gris. Alors là, vous avez joué un petit peu à la mode, hein, avec ce titre d'un pays que l'on pourrait croiser Egon Krenz ou Gunther Schabowski le soir de la chute du mur de Berlin. Alors là, je fais le malin parce que moi je les ai croisés, hein, une demi-heure avant. Et est-ce que le gris, c'est l'ennui, la tristesse et l'oppression? Je continue mes questions. Les suicidés de Desmines. Alors, en 1945, hein, c'est un cas de violence de guerre. On connaît les massacres de Tchétine. Non, ça y est, le nom m'échappe. Les Russes qui ont massacré tous les officiers polonais.
Katyn,
voilà. Mais alors ça, c'est un livre qui date de 2021. Et Desmines, c'est une petite ville en Poméranie occidentale. Et en avril 1945, l'armée rouge s'apprête à entrer dans la ville. La Wehrmacht fait sauter tous les ponts pour ralentir les soviétiques et les soldats allemands fuient, mais la population est prise au piège. Elle est là et elle se terre dans les caves. Les Russes arrivent et transforment la ville en, alors je vous cite, un espace de violence avec des pillages, des viols et des incendies. Et ce qui est intéressant dans votre récit, c'est que bon, vous avez trouvé des témoignages, je ne sais pas s'il y avait encore beaucoup de gens qui étaient vivants, mais que ça n'a pas été, on ne peut pas dire, les Russes sont arrivés, ils ont tout bousillé et tout. Non, c'est beaucoup plus subtil. Et les soldats n'étaient pas tous des salauds. Et voilà. Et donc ça, c'est vraiment intéressant. Et là, des centaines de personnes, à commencer par des femmes et des enfants en bas âge, se suicident. Donc comment est-ce que de façon collective et tout... Alors, vous n'êtes pas psychanalyste, mais en même temps, c'est vraiment un bouquin intéressant. Et en 5 jours, c'est le plus grand suicide collectif de civils de l'histoire allemande. Et votre livre, Emmanuel Droit, plonge dans des archives en se confrontant à, alors là, je cite, « l'énigme de la violence ». Et c'est un récit, bien sûr, qu'on aurait impossible à écrire avant 1989, puisque après, la RDA et l'Union soviétique étaient des pays frères, et donc là, bien sûr, c'était des bons amis, et on n'allait pas dire que les Russes d'avant, la génération d'avant, s'étaient comportés comme... Enfin, vous dites quand même que dès le départ, ils veulent les montres. Hein, ça, c'est la fameuse photo sur le mur, sur le monument de Berlin.
Voilà. Hashtag.
Voilà. Mais... si les Russes ne veulent pas, enfin, ou les Soviétiques ne veulent pas mentionner le passé, ce qui veut dire que le livre est quand même basé sur beaucoup de rumeurs. Alors là, je pose des questions, vous répondrez peut-être après. Et bon, toujours avec la prudence de l'historien, mais c'est des témoignages qui indiquent que les destins individuels ne sont pas toujours conformes au regard collectif. Alors, question, est-ce que l'addition des individus forme une collectivité? Et troisième livre, ça s'appelle Dénazification, et non pas la dénazification. C'est comme Claude Lanzmann, une fois il était interviewé à la radio, on lui dit « Vous êtes l'auteur de la Shoah », et il a sauté au plafond, il dit « Non, je suis l'auteur de Shoah ». Hein. Donc voilà, donc dénazification, post-histoire du Troisième Reich, alors c'est un bouquin tout récent, hein, qui est sorti en février 2024. Alors là, quand même, il y a plein de questions. Pareil, je me suis dit, je vais feuilleter le bouquin en une demi-heure pour prendre des notes. J'ai passé 3 heures à tout lire. C'est quoi la vérité en histoire? Vous me ferez 4 pages pour lundi. Sujet global ou addition de détails? Est-ce qu'un historien réveille des fantômes? Est-ce qu'on publie la liste des collaborateurs comme aux Pays-Bas, ce qu'on est en train de faire? Et c'est vraiment, alors là, ça pourrait faire toute une émission, mais c'est quand même un truc complètement dingue, hein, parce que c'est la porte ouverte à la délation et puis aux fausses interprétations. Est-ce que l'idée de vengeance est quelque chose de sain? On n'en parle jamais, la vengeance, hein. On parle de la réunification, et enfin, on parle de l'amitié franco-allemande qui a été retrouvée. En fait, on a simplement abandonné l'idée qu'on allait se venger des Allemands, parce que quand on l'a fait en 18 ou en 19 à Versailles, ça a mal tourné. Combien de générations avant que l'on dépasse le stade de l'émotion pour celui de l'étude stricte sans partisanisme. Je pense par exemple au Malgré nous. Hein. Il faudra encore 50 ans ou 100 ans pour qu'on commence à dire des choses qui ne soient pas comme des boutons qu'on presse sur le bout du nez. Alors pour un historien, il n'est pas tout seul, souvent. Vous êtes nombreux sur le même morceau, hein, sur le même sujet, et la dénazification, mais en ce moment sur l'épuration en Alsace, il y a une de vos collègues que je trouve géniale, Frédéric Naudufour, hein, que vous connaissez certainement, voilà, ou Alexandre Soumpf, Christian Bonnard, voilà, ce sont des gens qui travaillent tous sur le même sujet. Alors est-ce que vous êtes concurrent? Ou est-ce que vous êtes complémentaires? Vous êtes quand même concurrents. Hein. Je vois dans vos yeux que quand même chacun est sur le même morceau. Et alors, un historien, est-ce qu'il a une spécificité en Alsace? Alors vous êtes lorrain, mais c'est pareil. Hein. Je pense que c'est quand même compliqué de parler parce que il y a quand même beaucoup d'Alsaciens qui étaient allemands et qui sont restés allemands, hein, à cette époque. Donc c'est un peu plus voilà. Et alors le traitement des témoignages, bon, ben ça c'est ce que je pourrais appeler le flou, et les archives, c'est soi-disant objectif. Et alors, il reste toujours des mystères, hein, parce qu'il faut savoir décrypter les archives. Et ça, c'est très compliqué. Alors moi, je pense à la démarche de Rolilberg, hein, son livre « La destruction des Juifs en Europe ». Hein, c'est que des documents. Par exemple, il a retrouvé la facture du serrurier qui a fait les portes des chambres à gaz et des fours crématoires. Donc on a la facture en disant « j'ai livré ça tel jour, telle heure et j'ai fait les ajustements 3 jours après ». Donc là, on sait que c'est vrai. Hein, on ne veut pas dire... Voilà. Et quand on vit dans les ruines après la guerre, est-ce que l'on a l'énergie de faire le bilan du passé? Donc là, je pense aussi à le temps des loups, hein, en Allemagne, dans une telle misère entre 45 et 48 qu'ils avaient oublié qu'ils étaient coupables de la Shoah. Ils étaient eux-mêmes victimes de la misère. Voilà. Alors, on condamne les responsables, mais les gens du peuple, est-ce qu'on les punit? La dénazification, il y a des approches françaises, mais aussi américaine et aussi soviétique, et peut-être aussi spécifiquement alsacienne, net, hop là. Et est-ce qu'après chaque guerre, le vainqueur fait le ménage? Est-ce qu'après chaque guerre, aujourd'hui, on crée des cellules psychologiques pour les victimes et peut-être aussi pour les bourreaux? Alors, ma maman, qui était née en 1927, donc qui avait l'adolescence pendant la guerre, quand elle entendait ensuite, il y a 10 ans, après un accident, on a fait une cellule psychologique pour les gens qui étaient dans l'autobus, elle dit « Ah ben moi je reprendrais bien la cellule psychologique pour tout ce que j'ai vécu entre 40 et 45 hein ». Voilà, donc ça c'est un vrai problème du traumatisme et du fameux non-dit qui passe 2 générations. Est-ce un problème bureaucratique ou un problème politique ? Est-ce que on dénazifie des groupes ou est-ce qu'on dénazifie les individus un par un? Est-ce que les femmes sont aussi responsables et donc coupables que les hommes? Bon, MeToo n'existait pas après la guerre, mais est-ce qu'il y a une égalité de... Non, et on sait qu'à Nuremberg, les femmes ont quand même bénéficié, disons, d'une certaine indulgence. Faut-il être plus blanc que la neige pour être un juge? Je ne citerai que Pierre Pflimlin en Alsace, qui s'est retrouvé juge pour ce qu'il avait fait quelques années avant. Les dénazifiés se présentent comme des victimes d'un système d'épuration. Et vous citez, vous dites « Spruch ». Kammer, c'est la chambre d'épuration qui devient Bruchkammer, la chambre qui fracture. Et puis, il y a les erreurs de jugement, les délations, les vengeances personnelles, la diffamation et donc des victimisations des auteurs de la Shoah. Alors, est-ce que c'est un paradoxe? Est-ce qu'un soldat SS peut prouver son innocence? Voilà, c'est une question comme ça. Alors, voilà, je ne sais pas laquelle des questions vous a le plus interpellé, Emmanuel Droit? Alors, de quel sujet avez-vous envie de répondre?
Mais en fait, je suis déjà très impressionné par le soin, le temps que vous avez pris pour lire les ouvrages. Elles sont toutes pertinentes et toutes intéressantes.
Merci, vous pourrez revenir la prochaine fois.
Non, mais c'est pas de la flatterie gratuite, c'est sincère. Et en fait, dans toutes les questions que vous prouvez, enfin que vous, oui, j'ai fait un lapsus, dans toutes les questions que vous posez, finalement, il y a un fil rouge, c'est finalement comment l'historien à partir de ces sources hyper fragmentaires, lacunaires, on arrive, que ce soit Emmanuel Droit, Alexandre Zumpf ou Christian Bonnat, les collègues que vous avez cités, comment on réussit à administrer la preuve? Et vous voyez, on est quand même dans un monde où on doit lutter, et c'est un vrai souci aujourd'hui, je trouve, et un vrai enjeu sur lequel on n'est peut-être pas suffisamment collectivement conscients, les historiennes et les historiens. Mais par rapport à toutes ces entreprises de désinformation ou de mémorialisation, je pense notamment à tout ce mouvement de backlash conservateur, incarné notamment dans l'espace politico-médiatique par quelqu'un comme Philippe de Villiers. J'ai des collègues historiens qui s'attachent à dénoncer ça, mais notre parole me semble difficilement audible dans ce monde. Et c'est ça qui m'inquiète, c'est-à-dire qu'on est des artisans de la vérité, on prend du temps, vous l'avez dit, c'est pas facile de collecter les données, c'est pas facile non plus d'établir la preuve, parce qu'il y a tout un système d'analyse critique à mettre en place. Après, on essaie par des différents canaux de communication de publier nos résultats sous la forme de livres, de podcasts, de chaînes YouTube ou d'autres moyens. Mais je suis de plus en plus inquiet sur notre capacité à finalement atteindre un large public. Et je prétends pas que l'historien professionnel...
Parce que vous avez été remis en question de façon plus systématique aujourd'hui en 2025 qu'il y a peut-être 20
oui,
ans.
Oui, j'ai l'impression que
Est moins crédible.
Le prof est moins crédible. Les savoirs académiques sont alors délégitimés, c'est peut-être un peu exagéré, mais il y a une forme de dévalorisation de ces savoirs-là. En tout cas, il y a des formes de concurrence. Notamment sur des réseaux sociaux, alors sur lesquels certains collègues historiens et historiennes sont très présents et essaient de lutter, mais j'ai l'impression que c'est pas une lutte perdue, mais en tout cas on est en difficulté. On est en difficulté et y a quand même depuis une bonne quinzaine d'années toute une série de petites phrases assassines dans le champ politico-médiatique. Je veux pas paraître pour une victime de l'histoire, mais visant à dévaloriser les sciences sociales et humaines, considérant que nos efforts visant à comprendre la complexité du monde, c'est finalement soutenir d'une manière directe ou indirecte certains mouvements extrémistes, le fait de caricaturer l'université française comme étant un refuge de wokistes ou d'islamo-gauchistes, ça m'est insupportable en fait, parce que ça jette l'opprobre et le discrédit.
Et ça vous fait perdre du temps peut-être?
Alors ça nous fait perdre du temps parce qu'on est obligé de se justifier, et ça jette le discrédit sur une profession ou sur un ensemble de chercheuses et de chercheurs en sciences sociales et humaines qui donnent du temps pour en effet apporter un discours nuancé sur le réel, et un réel qui, on le voit bien, est compliqué, fait peur à une partie de la population.
Alors une question réelle, justement, pour conclure notre émission, un jeune Alsacien, 1944, 17 ans, il est incorporé de force, il survit. On peut dire qu'il est rescapé ou il survit, il revient. Est-ce qu'il doit prouver son innocence? Est-ce qu'on peut dire qu'il était innocent? Bon, ils n'étaient pas dans les Einsatzgruppe, parce que, mais ils ont quand même fait un bon paquet de saloperies.
Oui, oui, alors c'est toute la...
Alors, est-ce que ça compte, parce qu'on avait l'uniforme, est-ce que ça compte ou est-ce que...
On est toujours individuellement responsable de ses actes. On a toujours le choix, c'est-à-dire que si vous prenez le célèbre ouvrage de Christopher Browning, les hommes du 101e bataillon, ils avaient le choix de pas massacrer les juifs ou les bolcheviks sur le front de l'Est. Ils pouvaient, mais en même temps, il y a une
C'était un boulot, il fallait y aller.
Alors c'était un boulot, il fallait y aller, mais individuellement, ils avaient la possibilité de ne pas tirer. Or, ce que montre Christopher Browning, c'est qu'au-delà de la pression idéologique, il y avait la contrainte du groupe, c'est-à-dire qu'on faisait partie d'une communauté de combat, et que si on ne le faisait pas, on était mal vu par les gens de son groupe. Et donc, il y a toujours la possibilité d'échapper... on est responsable toujours de ses actes. Moi, je suis intimement convaincu que la responsabilité individuelle prime sur la contrainte exercée sur les individus.
Eh bien, Emmanuel Droit, vous êtes un historien passionnant, parce que vous citez les autres historiens, que tout le monde ne le fait pas. Et votre créneau, entre guillemets, qui est l'individu, je trouve ça formidable, et vous devez être un des seuls à travailler de façon aussi pointue, non?
Oh non, il y en a d'autres qui le font même mieux que moi. Donc,
mon Dieu.
Il n'y a pas de,
voilà.
Alors, y a pas d'exclusivité.
Merci beaucoup.
Merci à vous de l'invitation.
C'était l'épisode numéro 97 de « Vous l'avez bien connu » sur Radio Judaïca Strasbourg. Emmanuel Droit, pas vraiment d'eau au mur. On se retrouve tous les mardis à 11h30 et le dimanche à midi. La semaine prochaine avec Pierre Henninger. Nous irons dans le grand froid. À la technique, Thomas Marinelli, et mon nom est Ambroise Perrin. No connection between...